Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec le réveil culturel. Nous sommes le lundi 26 mars. C'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, ce magazine de l'actualité culturelle ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Le réveil culturel, une émission réalisée par Vincent Bouchard avec ce matin à la technique Marie Le Peintre. Émission coordonnée par Anaïs Isbert et Bilal Bouchareb. Dien Bien Phu, joli nom pour un naufrage. Dien Bien Phu, trois syllabes de sang, un son de claque et de défaite pour nous les hommes. Retour à Dien Bien Phu, à la recherche d'un amour jeune et vieux, fou de 20 ans. Retour ici en pèlerinage. Dien Bien Phu, c'est le titre du roman, premier roman de mon invité ce matin, Marc-Alexandre Ohobambe, et c'est édité chez Sabine Vespisseur.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Marc-Alexandre Ohobambe.
Bonjour.
Premier roman, mais c'est sans doute pas votre premier livre. Vous êtes poète, slameur, vous avez fait paraître déjà des recueils de poésie. Là, on est entre le roman et le recueil de poèmes, parce que les poèmes sont très très présents dans cette histoire. Une drôle d'histoire d'ailleurs, parce que là on est à peu près sûr que c'est pas votre histoire. Marc-Alexandre Ohobambe, Dien Bien Phu, c'est l'histoire d'un jeune de 20 ans qui a fait la guerre en Indochine et qui revient 20 ans après pour retrouver celle qu'il a follement aimée pendant la guerre. C'est un roman sur l'amour en temps de guerre, mais aussi sur l'amitié en temps de guerre.
Absolument, absolument. C'est une histoire d'amour et d'amitié sur fond de guerre et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un texte au long cours sur ces thèmes qui me sont chers.
Mais pourquoi avoir choisi le Vietnam ?
Alors pour plusieurs raisons, par amour déjà, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années pour et par la poésie. Et un soir où on était off, comme on dit, entre deux concerts, une amie vietnamienne m'a emmené rencontrer des Bodoy. Donc qui sont des soldats, qui étaient des soldats paysans, donc pas des soldats de métier, des jeunes qui s'engageaient pour combattre l'impérialisme. Et donc ils se retrouvent encore de temps en temps pour échanger, pour parler de la guerre, pour parler de leur adolescence empêchée à cause du conflit dans lequel ils ont versé cœur et corps et âme. Et quand ils se retrouvent, ils l'évoquent parfois en chanson, en poésie, et ça m'a bouleversé. Ça m'a rappelé aussi la manière dont mon grand-père parlait de la guerre de décolonisation au Cameroun. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient exactement les mêmes. Ces gens que je voyais au Vietnam, ces messieurs qui parlaient de la guerre, de leur résistance, parfois par des poèmes, parfois par des témoignages, me faisait penser à mon grand-père et à des histoires que j'avais entendues aussi à Douala quand j'étais enfant.
À Douala, où vous êtes né en 1976, voilà. Marc-Alexandre Ohobambe. Dien Bien Phu, c'est le titre donc de ce livre, et vous prenez vous glissez dans la peau d'Alexandre, donc ce jeune soldat qui revient, qui laisse tout tomber, c'est-à-dire 20 ans après la guerre, il va laisser tomber sa femme, sa famille pour retourner là où il a aimé éperdument une fille rencontrée pendant la guerre.
Oui, là où il est né même. Il considère que ça a été le lieu de sa renaissance au monde. Grâce à Mylan, cet amour au visage lune, et grâce à Alassane Diop, qui devient son meilleur ami, qui lui sauve la vie pendant le conflit. Et il considère qu'effectivement ce lieu, qui était un lieu de guerre, un lieu de destruction, a été aussi le lieu de sa renaissance au monde. Donc il part pour renaître et revenir à lui-même.
Drôle de pèlerinage.
Mais nécessaire. Parce que je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas continuer à se fuir. Et là, ce n'est pas seulement le narrateur, mais je pense qu'on est tous parfois confrontés à des choix. Et parfois, on accepte de se fuir un petit peu parce que d'autres choses sont prioritaires. Et puis, il y a des moments où c'est plus fort que nous et que c'est absolument nécessaire.
Parlez-nous de cet Alexandre.
Alors Alexandre, c'est un jeune homme qu'on va suivre. J'ai eu envie donc de donner vit à ce personnage qui porte un regard sur le monde qui ressemble un peu au regard que je porte sur le monde. Et c'était intéressant de voir comment, à un moment donné, il m'a échappé complètement. Il a vécu sa vie, Alexandre, dans le livre. Les mots s'écrivaient, je ne les écrivais plus. Et ça a été une expérience très forte d'auteur. Je n'avais jamais vécu ça. Parce que quand j'écris de la poésie, c'est inconscient, c'est fulgurant. Et je ne reviens pas sur ce que j'écris.
Surtout, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas connu la guerre.
Non, pas directement, non.
Alors que là, c'est un personnage qui est marqué par la guerre.
Oui, il est marqué par la guerre, il est habité par elle, il est hanté par elle. Et heureusement qu'à côté de la guerre, il y a aussi l'amour et l'amitié qui le hantent.
Pas à côté, c'est intimement lié, la guerre et l'amour en même temps, il découvre.
Voilà, exactement. Le chaos et la lumière en même temps.
Alors, Marc-Alexandre Obambé, dans cet Alexandre que vous mettez en scène dans Dien Bien Phu, il ne rompt en réalité jamais avec ses 20 ans, avec cet amour, avec cette guerre, puisqu'il continue à écrire des lettres à cette maille qu'il a rencontrée et qui lui a fait, vous venez d'utiliser l'expression, et qui a été l'occasion d'une renaissance pour lui.
Oui, en fait, il a écrit pendant 20 ans des poèmes à une absente, mais c'est aussi le pouvoir de la littérature et le pouvoir de la poésie qui permet de retenir près de nous les êtres aimés, qui permet de les chanter, qui permet de leur donner vie encore et toujours par le simple fait de les évoquer et de les nommer. Et donc lui, pendant 20 ans, à son retour en France, il écrit à Mylan. Il écrit à Mylan. Il ne cesse jamais la conversation avec Mylan. Et d'ailleurs, les poèmes dont vous parliez tout à l'heure rythment le récit parce que je l'ai composé un peu comme une partition musicale, ce texte-là. Je l'ai plus composé d'ailleurs qu'écrit, je pense.
Quand vous dites « j'ai plus composé qu'écrit », c'est parce qu'en tant que poète slammeur, et vous faites beaucoup de scènes, Marc-Alexandre Obambé, à l'origine de ce texte, c'était peut-être un spectacle ?
Non, pas à l'origine, mais j'écris toujours du bout des lèvres. Je dis d'ailleurs souvent en plaisantant aux élèves que j'ai en cours que je suis mosicien. Pour moi, c'est important, la musique est là tout le temps, dès le premier mot, dès la première phrase.
Mosicien. Les mots et la musique.
Voilà. Et d'ailleurs, Dien Bien Phu, le titre lui-même, ces trois syllabes qui me fascinent depuis l'âge de 16 ans, juste pour la musique, avant que j'aille au Vietnam. Dien Bien Phu, cette musique-là me parlait intimement, sans que je sache que j'écrirai un jour dessus. Mais voilà, je suis très sensible à la musique des mots, qui est aussi pour moi de la poésie d'ailleurs, la musique, une musique de mots. Et Alexandre donc écrit sans arrêt, sans cesse à Mylan, parce que c'est aussi le seul moyen de ne pas rompre avec elle.
Mylan, et si on parlait d'elle maintenant, Marc-Alexandre Obambé ?
Mylan, c'est... C'est l'amour absolu, c'est la femme ultime, c'est la femme originelle et à la fois la femme ultime. C'est le premier amour et le dernier amour d'Alexandre. C'est une femme qui l'a bouleversé, comme certaines femmes savent le faire parfois. Et elle l'a bouleversé, mais bouleversé totalement. C'est de tout son être, il est épris de Mylan. Et elle va l'accompagner comme ça pendant 20 ans dans sa quête de lui-même.
Dien Bien Phu, donc c'est la guerre et en même temps c'est le temps de l'amour et le temps des copains parce que, et même de l'amitié, parce qu'il y a aussi le personnage d'Alassane Diop, l'ami qui m'a sauvé la vie, on peut le dire. Il pourrait l'expliquer comme ça, Alexandre.
Absolument, Alassane est central dans la vie d'Alexandre, déjà parce qu'il la lui sauve et puis après parce qu'il lui apporte comme ailleurs, comme lumière, comme conscience du monde. Alassane est essentiel dans la vie d'Alexandre. D'ailleurs, et c'était l'inverse était vrai aussi, puisque le fils d'Alassane s'appelle Alassane Alexandre, en hommage à un ami de rencontré pendant la guerre. Et Alassane Diop, qui est aussi le cousin d'Alioune Diop, figure centrale, fondateur des éditions Présence Africaine, qui m'ont apporté, moi, la négritude de Césaire, de Damas, de Senghor. Voilà, donc c'était l'occasion aussi de rendre hommage à cette maison d'édition-là, et puis à ce qu'elle a porté, à ce qu'elle porte encore comme valeur et comme fondation de ce que Glissant appelait peut-être la relation.
Et il y a quelque chose au filigrane, au fil de ce récit, parce que ça reste un récit intime, amoureux, des fois très grave, poignant, ce qui ne vous empêche pas, Marc-Alexandre Mbambe, de parler du combat anticolonialiste. Qu'est-ce que aujourd'hui combattre contre le colonialisme ?
C'est participer à ce que j'appelle la décolonisation des esprits, mais de tous les esprits, c'est-à-dire des deux côtés. Il y a pas très longtemps, j'étais à Nantes, je jouais dans un musée et le thème c'était ça, décoloniser les esprits, un musée qui témoigne de la colonisation, des luttes de décolonisation. Et ce qui était important pour moi, et ce qui est important pour moi d'ailleurs, surtout avec les jeunes gens que j'ai, les élèves, les étudiants que j'ai l'occasion et le bonheur de rencontrer depuis une dizaine d'années maintenant, c'est ça, c'est décolonisons nos esprits tous autant que nous sommes. Le combat, il est là aussi. Cesser de se regarder en être supérieur, inférieur, cesser d'accepter d'avoir sur nous un regard qui nous infériorise, et puis juste être dans le respect de nous-mêmes, debout.
Marc-Alexandre Mbambe, vous venez de le préciser, vous êtes aussi enseignant.
Oui, je suis enseignant d'une certaine manière. Oui, ma mère l'était et moi je la continue en intervenant dans des établissements scolaires en France et dans le monde pour parler de poésie, pour parler de littérature, pour parler aussi de ce que j'aime à dire, assumer son métier d'homme.
Tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu la úa em vẫn chưa về, rừng đông quân gió em đứng.
Marc-Alexandre Mbambe sur France Culture, il fait le réveil culturel à l'occasion de la sortie de son roman « Dien Bien Phu » chez Sabine Vespisseur. Extrait du roman, Marc-Alexandre Mbambe.
Le passé, un retour de flamme parfois. Napalm, gaz, tir de mortier, armes lourdes, âmes, éplorées, cris et douleurs insoutenables, blessés graves ou légers, vie traumatisée, terre immaculée, cadavre, destin. Empêché, espoir assassiné. La mort a mille visages qui interrogent la conscience de l'homme. Maï m'avait rejoint en Normandie et nous nous en étions allés, hôtel de la paix dans notre chambre paradis, antichambre de la folie amoureuse qui nous liait l'un à l'autre. Elle était mienne, j'étais sien, ici. On ne le sait pas, mais on cherche Maï toute sa vie. On la trouve, mais on ne peut pas être avec elle, on ne peut plus être avec elle car on doit partir, partir vite, loin d'elle qu'on aime et de son pays qui nous hait pour ce qu'on est aussi, un soldat ennemi. On ne le sait pas mais on cherche Maï toute sa vie, on la trouve mais on ne peut pas être avec elle, on ne peut plus car la guerre est finie, la paix revient et l'amour s'en va, mourir ailleurs. On ne peut pas non plus être sans elle, Maï, qu'on a cherché sans le savoir. Toute sa vie.
20 ans après la fin de la guerre, 20 ans après Dien Bien Phu, Alexandre revient au Vietnam sur la trace de la fille qu'il a follement aimée. C'est l'histoire de Dien Bien Phu, c'est aussi une autre histoire, parallèlement à cette histoire d'amour, une histoire de solidarité et d'amitié. Marc-Alexandre Ohombambé, si on parlait un peu de vous, alors de votre parcours, cet amour de la poésie, des mots, ça vient de l'éducation de votre mère qui était elle-même enseignante, ou c'est quelques histoires de la vie qui vous permettent aujourd'hui de manier les mots et d'être ce matin à la radio pour parler de votre dernier roman?
Oui, ça vient de très loin. Ça vient d'une maman, d'une merveilleuse femme de lettres qui m'a transmis l'amour des mots, qui était enseignante de français, de lettres et de philo, et qui animait aussi un cercle de poésie à la maison. Donc, enfant, moi, je voyais à la maison débarquer des amis de ma mère qui étaient enseignants et donc qui avaient des métiers divers et qui venaient lire de la poésie, chanter de la poésie, des textes classiques, Hugo, Éluard, et des textes d'auteurs haïtiens, René Depestre, Césaire. Voilà, la maison était pleine de ces voix et habitée par des gens qui n'étaient pas des comédiens, qui étaient juste des amoureux de poésie. Et c'est quand je suis arrivé en France que j'ai découvert qu'on lisait la poésie de manière très neutre, qu'on pouvait la lire aussi de manière très neutre, très, très timide comme ça, parce que moi j'avais toujours entendu scander, ce qui fait que je ne peux pas dissocier mon geste d'écrire du geste de dire. Pour moi, un texte, si finitude il y a, c'est un texte est écrit pour être partagé de manière vibrante. Et j'écris de la poésie comme ça. J'ai commencé par le rap quand j'étais au Cameroun. J'écrivais des textes de rap. Et puis après, le rap est devenu un peu étroit, en tout cas pour la personnalité que j'avais à 16-17 ans. Et puis j'ai eu envie d'écrire différemment et de manière plus libre.
Autour de thèmes qui vous concernent, ou c'est juste le plaisir de jouer avec les mots et d'aller là vers des ailleurs insoupçonnables?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le plaisir. Ça a commencé d'abord par le plaisir de manier les mots, de jouer avec les mots. Et très vite, ça a cessé d'être un jeu parce que j'ai perdu ma mère tôt. Et à partir de ce moment-là, l'écriture est devenue autre chose qu'un jeu. C'était le seul moyen pour moi de la garder vivante. Et donc c'est devenu une nécessité d'écrire. Là, je jouais plus, j'avais besoin d'écrire pour respirer et pour survivre à cette absence fondatrice. Et après, il y a eu aussi le fait que j'ai réalisé qu'en écrivant, je pouvais donner mon avis aussi sur le monde dans lequel je vivais et faire plus que ça, c'est-à-dire peut-être même participer à la marche de ce monde-là. Et donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, mais bien sûr, ça a commencé par le plaisir et de manier les mots et d'allumer une lueur dans les yeux de ma mère qui souriait qui était mon premier public avec mon père et qui souriait à chaque fois que je rentrais du collège avec un nouveau texte à partager aux parents.
Écrire contre l'oubli, écrire contre la mort, c'est aussi le sujet de Dien Bien Phu.
Oui, il s'agit d'écrire pour rester vivant. Il s'agit d'écrire pour rester vivant, pour dire aussi qu'à travers moi, tellement d'autres personnes sont vivantes aussi. Il s'agit d'écrire pour rester vibrant et dissiper les ténèbres autour. Oui, c'est écrire contre la mort, c'est écrire jusqu'à l'amour même.
Vous êtes arrivé en France à l'âge de 17 ans, Marc-Alexandre Ohombambé. Vous avez étudié à Lille, vous êtes intéressé au journalisme, mais très vite, c'est l'écriture et la scène qui l'ont emporté. Vous êtes auteur de 3 recueils de poèmes et votre collectif s'appelle « On a slamé sur la lune ». C'est un hommage à Tintin ou c'est un hommage distancié à Hergé ?
Non. Ça fait sourire, mais c'est un hommage à Prévert, mais pas seulement, parce que Prévert a écrit l'Opéra de la Lune. Mais c'est surtout un, 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 un hommage à quelqu'un qui est fondamental pour nous. Donc quand je dis nous, je parle des membres du
collectif.
Du collectif. Et on a eu envie, à un moment donné, quand on cherchait un nom, d'être dans cette distance-là. Pour parler du monde, il faut un peu de distance parfois. Et on se disait que c'était pas mal de regarder le monde, de regarder la Terre de là-haut, et un peu de hauteur, un peu de distance. Et la Lune était un lieu pas mal pour ça.
Pour parler du monde tel qu'il est, ou pour parler de littérature et pour imposer la poésie dans un monde rongé par tant de maux, de problèmes?
Alors, pour parler du monde tel qu'il est, pour parler du monde et le réinventer aussi, inventer de nouveaux chemins, et non pour imposer la poésie, mais pour la proposer, parce qu'il y a toujours cette ambition là de démocratiser la poésie et puis de la réinjecter dans le quotidien des gens. Comme ça, par petites touches. Moi, le collectif s'est fait connaître en commettant des attentats poétiques. On rentrait dans des restos, dans des musées, on déclamait des poèmes et on partait en courant, sans laisser de traces autres que la poésie.
Poèmes connus, des poèmes classiques, du répertoire, ou vos propres poèmes?
C'était vraiment un mélange de tout. Il y avait des textes, des auteurs qui nous bouleversent. Là, j'ai cité Césaire, mais je pourrais citer René Char aussi.
Bien marqué, d'ailleurs.
Oui, je suis marqué à vie par René Char et Césaire. Mais c'était parfois, oui, des textes d'auteurs qui nous bouleversaient. Et puis, parfois, les premiers textes auxquels on s'essayait de manière collective aussi. Mais l'idée était vraiment d'entrer dans un espace et puis d'offrir de la poésie et de partir sans laisser aucune trace à part cette poésie-là. Et c'est amusant parce que 10 ans après, il y a des gens qui nous ont revus ou retrouvés sur scène, alors il y a eu un peu de chemin depuis, et qui se souviennent de mots comme ça, entendus dans un resto. Voilà, tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et on partait. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il n'y a pas très très longtemps. On fêtait les 10 ans d'On a slamé sur la Lune. Et quand il a entendu, il m'a dit, mais je connais votre voix. Est-ce que vous auriez pu dire cette phrase?
Il
avait retenu la phrase parce qu'elle avait, ça l'avait marqué. Il avait noté, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et grâce à Internet, il avait retrouvé René Char. Et il s'était dit, mais ces gamins-là sont entrés dans le resto et ont offert un poème de René Char. Mais il avait que ça comme trace, puisqu'on n'avait pas dit comment on s'appelait, on n'avait rien dit du tout. Et je trouve ça absolument formidable de retrouver, grâce à la poésie, quelqu'un avec qui on a eu un échange, bref, il y a une dizaine d'années.
Et pour terminer, Marc-Alexandre Ohombambé, quel dialogue avez-vous, vous, par exemple, avec Aimé Césaire et René Char?
Alors je leur écris et puis je les récite. Je continue à les garder en vie poétique, à les transmettre. Je suis passeur, avec les jeunes, j'aime faire ça plus que tout, même passer, être
Mais
passeur.
Mais pourquoi très précisément Césaire et Char?
Parce que c'est mes plus grandes claques poétiques. Parce que Césaire et Char m'ont enseigné que la poésie, avant d'être des mots, une esthétique, était la respiration de la femme et de l'homme debout. Et que je leur dois ça. Si j'ai basculé totalement en poésie avec le sentiment que je ne devais essayer d'être le maître de mon destin et le capitaine de mon âme, c'est grâce à ces poètes que je considère comme des professeurs d'espérance. Et parmi ces professeurs d'espérance, il y a tout en haut Césaire et Char. Char, d'ailleurs, auquel je rends hommage par mon pseudonyme, Capitaine Alexandre, qui était le nom de guerre de René Char pendant la Résistance.
Mais vous vous souvenez du mot, du poème, de la phrase, de la tournure, de l'idée qui a fait qu'à un certain moment, c'était eux et pas d'autres qui allaient devenir vos guides?
Oui, je m'en souviens absolument. Et
pour Césaire, par exemple?
Pour Césaire, en fait, il y avait une bibliothèque à Cajou chez moi, la bibliothèque de ma mère. Et parfois, je prenais des livres et j'ai pris un livre au hasard. Et je le dis souvent, d'ailleurs, on ne choisit pas les livres, c'est eux qui nous choisissent parce qu'ils ont des choses à nous dire. Donc, j'ai 15 ans. J'ouvre le cahier d'un retour au pays natal, mais complètement au hasard. Déjà, je ne comprends pas tout. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout dedans. Mais je réalise aussi qu'il n'y a rien à comprendre. Juste se laisser traverser par le souffle et une vibration. Et j'ouvre ce texte et je tombe sur « La justice écoute aux portes de la beauté ».
Et ça, ça vous parle tout de suite?
Ça me parle. Je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais ça me bouleverse. Et quelques pas plus loin, mais c'est juste incroyable ce qui se passe. C'est une phrase de lumière. Elle nous traverse de la tête aux pieds et on ne sait pas pourquoi. Et des années-lumière plus tard, justement, on comprend pourquoi elle nous a autant bouleversés. La justice écoute aux portes de la beauté. Il y avait ça chez Césaire et chez Char. Pareil, il faut imaginer que j'ai 17 ans, que je rêve de devenir écrivain et je n'ai pas de plan B dans la vie. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est ce que je veux faire. Et il y a cette phrase, « Va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance. À te regarder, ils s'habitueront. » Et j'ai des larmes qui coulent et je ne comprends pas pourquoi non plus. Mais je sais que ça me parle et j'ai l'impression qu'il a écrit ça pour moi à ce moment-là. « Va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance. À te regarder, ils s'habitueront. » Et depuis cet âge-là, la poésie, la littérature sont ma chance, mon bonheur et mon risque.
Et la langue française a été là dès votre naissance, ou il y a eu une période où elle représentait quelque chose de mystérieux? Vous êtes né avec le français,
oui,
Marc-Alexandre Mbembe?
Oui, je suis né avec le français. Alors je dis souvent en souriant que le français est aussi ma langue maternelle, puisque ma mère l'enseignait. Mais je suis né avec le français. Au Cameroun, on parle français et anglais, c'est les deux langues officielles. Lié à l'histoire du Cameroun et de la France, et donc je suis né avec le français.
Dien Bien Phu, c'est le titre de votre premier roman, édité chez Sabine Vespissaire. Merci d'être passé, Marc-Alexandre Mbembe.
Merci à vous pour votre invitation et votre accueil. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Dans ce dernier.